Babylone. Nancy Ypsilantis.
Bonjour et soyez les bienvenus dans la classe d'accueil de Babylone. Nicole Duparc, on retourne disserter sur les bancs d'école à l'occasion de la récente sortie chez Antipode de Pages d'accueil. C'est un ouvrage collectif qui rend compte des 20 ans d'existence des classes d'accueil, de la scolarité post-obligatoire dans le canton de Vaud. Ça veut dire exactement plus ou moins 15-20 ans.
Exactement. L'âge. Donc on se retrouve à l'exact croisement entre pédagogie, immigration et intégration, puisque cet ouvrage documente et donne une visibilité à une histoire qui est tout à fait méconnue, en tout cas très mal connue. Et cette mise en perspective, les 20 ans de ces classes d'accueil dans le canton de Vaud, bien ça nous donne des clés pour questionner aussi l'avenir, et je dirais au-delà du canton de Vaud, puisque je ne vous apprends rien, c'est vrai que le dossier école et migration est à haute teneur politique. Alors je le précise d'emblée, on va pas s'aventurer du tout sur ce terrain-là qui est assez miné, hein. Babylone n'est pas le lieu d'un tel débat. Par contre, bien sûr, on va questionner l'histoire, la pédagogie de l'accueil, cette problématique de l'insertion en compagnie de mes trois invités. Alors deux professeurs, Chris Durussel qui a coordonner l'ouvrage, à ses côtés Christian Rem, qui est, c'est juste comme je prononce votre nom, voilà, qui est également professeur, et puis Jean-Claude Métro, pédopsychiatre, et puis qui témoigne également dans, qui a écrit un texte dans ce livre.
Voilà. Bonjour et merci à vous trois d'avoir répondu oui à l'invitation de Nicole Duparc. Le canton de Vaud fait œuvre pionnière dans ce regard porté sur ces classes d'accueil. Qui va répondre? Allez, le coordinateur, Chris Durussel.
Alors, ça dépend ce qu'on entend par pionnier. Je ne crois pas que le canton de Vaud soit le premier à avoir créé des classes d'accueil post-obligatoires. Il existe aussi des classes à Genève, en tout cas. Leur nom
C'était le Sky, ils viennent de changer
voilà,
le nom.
Voilà, justement.
Donc,
mais enfin,
ACPO.
Voilà. Donc il existe des classes d'accueil à Genève. Il en existe aussi certainement dans d'autres cantons. Alors malheureusement, je ne suis pas la bonne personne pour vous faire la liste exhaustive.
Mais c'est le premier ouvrage.
Oui,
publié.
Je pense que oui.
Nicole Duparc, que dire de cet ouvrage en trois parties?
Voilà, le lecteur entre dans cet univers et dans cette histoire par trois grandes portes. Il y a d'abord les textes, les témoignages des acteurs, c'est-à-dire des professeurs, mais également de toutes celles et ceux qui gravitent, j'irais, dans cette galaxie classe d'accueil, donc psychologues, infirmières, etc., jusqu'au doyen, en passant par la secrétaire, on l'entendra tout à l'heure. Mais le parti pris éditorial a été de ne pas rester en huis clos, j'irais enfermé dans la salle des maîtres, mais vraiment d'ouvrir la fenêtre de la classe, avoir un regard extérieur en donnant la parole, eh bien justement, à des pédopsychiatres comme Jean-Claude Métro, des anthropologues, des juristes. Enfin, on a vraiment tout un panel, même des géographes d'ailleurs, autour de la mobilité, de la mondialisation, peut-être de ce nouvel élève mondialisé. Et puis enfin, eh bien justement, puisqu'on parle d'élèves, je trouve que c'est une excellente initiative de votre part. Une place faite aux éternels sans voix, que sont les élèves, classe d'accueil ou pas, d'ailleurs, on les entend rarement. Donc ce sont leurs récits biographiques, mis en forme, en écriture, qui viennent rythmer ces pages d'accueil, comme autant de petites balises, comme ça, qui ancrent la réflexion dans le concret des expériences qui ont été vécues par ces jeunes migrants dans ces classes d'accueil, donc du poste obligatoire, on l'a dit, 15-20 ans, quoi.
Chris Durussel, difficile de demander à ses élèves de s'asseoir et d'écrire ses expériences. On les entendra tout à l'heure. On a fait une petite lecture.
Alors en fait, la forme qu'on a choisie pour ça, c'était plus une discussion qu'une. Alors certains d'entre eux ont choisi d'écrire.
Parce qu'on les entend presque parler
voilà,
de cette écriture.
Exactement. Parce qu'en fait, ils ont rencontré, pour la plupart d'entre eux, d'anciens professeurs qui ont repris contact avec eux, ou qui avaient encore des contacts avec eux, et qui leur ont parlé du projet. Et alors ça a été, je crois, assez facile d'avoir des échos positifs, c'est-à-dire d'avoir des élèves qui étaient d'accord d'y participer. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, chaque professeur qui a accompagné un élève a eu un moment de dialogue, ou plusieurs moments de dialogue, qui ont ensuite été retranscrits et mis au net pour de l'écriture.
Je vous propose de les entendre mis en onde.
Assis au bord de la mer, je me rappelle comme hier, le premier jour de mon arrivée en Suisse. Tout était confus dans mon esprit, des sentiments de doute, d'inconnu et d'insécurité s'entremêlaient. En effet, je me posais beaucoup de questions sur la vie en exil. Les premiers jours, j'essayais d'imaginer la vie dans une langue et dans un pays étranger. Je ne savais pas à quoi ressemblaient les Suisses, ces étrangers que je devais découvrir. Mes premiers pas, je les ai faits dans les Caspeaux. Les enseignants et le doyen étaient très chaleureux, polis et compétents. J'étais heureux d'être entouré par ces enseignants expérimentés qui travaillaient chaque année avec des élèves de différents pays. J'aimais leur curiosité intellectuelle, leur intérêt pour nos parcours de vie, nos cultures, notre manière de penser. Nous avions la même curiosité pour la Suisse et les Suisses.
Mon adaptation à mon arrivée n'a pas été facile. J'avais le sentiment d'être arraché à mon pays natal, l'Érythrée, et à mes proches. De plus, je suis arrivée dans un pays dont je ne connaissais ni la langue, ni les coutumes. Lorsque les cours ont débuté, j'ai commencé à me sentir mieux, car en voyant d'autres élèves dans la même situation que moi, ça m'a réconfortée. Je parlais bien l'anglais, ce qui m'a peut-être aidée à partir de zéro dans une nouvelle langue. La classe d'accueil aussi a certainement facilité mon atterrissage, grâce à mes professeurs de français et de gymnastique, qui ont joué un rôle très important dans mon intégration, en m'apprenant le français et les coutumes suisses avec beaucoup de patience et de persévérance, puis en m'aidant à faire partie d'une équipe de volleyball à Lausanne, vu que j'avais déjà pratiqué le même sport dans mon pays d'origine.
En Bosnie-Herzégovine, j'étais un élève de lycée technique. Ici, j'ai vite appris le français. Au collège de Béthusie, à Lausanne, tout me paraissait romanesque, presque irréel, comme si je me trouvais dans un livre de littérature que je feuilletais comme un lecteur extérieur. Des cours super, un accompagnement pour mes progrès en français, langue dont j'aimais me servir, une révélation. J'ai commencé à lire aussi, alors qu'en Bosnie, dans ma propre langue, je ne lisais que très peu. L'étranger de Camus m'a beaucoup impressionné. Ces classes ont représenté pour moi un tremplin. Le premier jour, le professeur a mis le dictionnaire de français sur ma table en me disant « c'est le tien ». Si un autre élève en a besoin, qu'il vienne le chercher sur la table d'Anvar. Je me sentais un peu gêné d'être trop bien reçu et que trop d'attention soit portée sur moi. Anvar Hadzikadunic.
Après la classe d'accueil et pour mieux me perfectionner en français, j'ai poursuivi la 10e année. Cela m'a quand même permis de trouver une place de pré-apprentissage d'assistante dentaire, une formation que je n'ai malheureusement pas poursuivie jusqu'au bout en raison de quelques problèmes familiaux et personnels. En fait, je n'ai pas pu me relever de ces difficultés rapidement. J'ai travaillé comme vendeuse pendant quelques années. J'ai même essayé d'entreprendre des démarches pour faire une formation dans le domaine médical, mais faute de moyens financiers et vu mon âge avancé pour faire un apprentissage, ce fut un échec.
C'était la première fois aussi que je rencontrais des personnes d'autres continents. L'Africain que j'avais vu à la télévision était devenu un bon camarade de classe. Chaque jour, je progressais en français. Du langage non-verbal, j'entrais dans le domaine de la parole. Dans ce que j'appellerais mes discussions avec mes camarades de classe et nos enseignants, j'apprenais tous les jours quelque chose sur l'Europe, les guerres aux Balkans, sur les Tamouls, sur l'Afrique et sur l'Amérique latine. Je constatais à quel point mes camarades de Caspo et moi avions des choses en commun. Les différences devenaient avec le temps superficielles. Une partie de moi devenait kosovare, une autre tamoule, portugaise, kenyane. Je développais aussi une forme de sympathie pour la Suisse qui nous offrait ses cours pour nous permettre de nous insérer dans la société. C'est plusieurs mois après le début des cours que j'ai découvert un nouveau mot, absent jusque-là de mon vocabulaire, xénophobie. Mais c'est le mot suivant dans la liste qui m'a le plus marqué, xylophone. J'ai pu ensuite entendre le son de cet instrument dans la salle de musique.
Confinée dans l'enclos de l'aide sociale pendant quelques années, je n'ai pas réussi à en trouver la sortie jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'action sociale vaudoise en 2006, une loi permettant aux jeunes bénéficiaires de l'aide sociale de trouver leur autonomie grâce à des formations professionnelles. Actuellement, j'ai fini mon apprentissage d'employé de commerce, j'ai eu mon CFC et j'ai été engagée au département de la santé et de l'action sociale en tant que secrétaire de la section des affaires sociales.
Mon année Caspo m'a procuré une ouverture sur le monde et a élargi mon horizon. La Suisse actuelle est malheureusement sur un autre chemin, celui tracé entre autres par les discours rétrogrades de la fin du 19e siècle. De retour dans mon pays pour un bref séjour, j'allume une cigarette et dans sa fumée, j'essaie de retrouver l'innocence de mon année Caspo. Je réfléchis à ces sous-hommes créés par ce pays et à la grande majorité des citoyens suisses, instrumentalisés et dotés de la violence physique et symbolique légitimée, qui s'aliènent de jour en jour en se cachant derrière des valeurs destructrices. En comparant la Suisse de mon année Caspo à celle d'aujourd'hui que je connais maintenant, c'est le désespoir pour l'avenir de ce pays qui envahit mon cœur.
Voilà, quelques récits extraits de pages d'accueil parus, ouvrages collectifs parus à l'occasion des 20 ans d'existence de ces classes d'accueil. En notre compagnie, Chris Durussel, directeur de l'ouvrage et enseignant, Christian Rehm, enseignant, et Jean-Claude Métro, pédopsychiatre. Ce qui est frappant dans ces textes, peut-être que c'est vous, Jean-Claude Métro, qui allez répondre à cette question, c'est cette gratitude qu'ont ces élèves. Alors qu'au départ, ça devait être rude.
Alors oui, gratitude, mais je dirais que c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est magnifique, ce travail qui a été fait depuis 20 ans. J'insiste là-dessus, parce que j'ai été en voyageur, je dirais, au début, aux côtés des classes d'accueil. Je connaissais bien Bernard Courvoisier, qui est un peu l'initiateur et le premier doyen des classes d'accueil. Ensuite, c'était vraiment de très loin que j'ai continué de côtoyer ce voilier. Je dis cet exemple de voilier parce que je crois qu'effectivement il se trouve dans un lac avec des vagues, enfin plutôt une mer assez agitée, mais que ce voilier a continué de garder à l'intérieur une humanité, une qualité relationnelle dont témoignent d'ailleurs les élèves. Et cette gratitude, ben, c'est une gratitude aux enseignants, mais je crois que dans le récit des enseignants, il y a aussi une gratitude aux élèves. Et pour moi, c'est cette réciprocité qui est le plus important.
On entend l'un d'eux dire « j'ai été trop bien reçu ». Presque.
Trop bien reçu, parce que évidemment, c'est assez différent de ce qui peut se passer ailleurs. Mais je trouve presque dommage la sélection des textes que vous avez faite, parce qu'elle met bien l'accent sur le drame qu'ils ont vécu avant, qu'ils ont vécu après. Mais ça n'avait pas assez d'insistance, à mon sens, sur ce qui est vraiment le plus important dans ces récits, c'est ce qu'ils disent de ce qu'ils ont vécu pendant cette année et qui leur ont permis de se sentir appartenir à un monde pendant cette année.
Mais ça, on l'entend un peu dans les témoignages. Un qui dit, par exemple, une partie de moi est devenue kosovare, etc. Donc on sent bien cette empathie aussi qu'ils ont pu vivre durant cette année.
Alors ça, c'est plus que de l'empathie. Oui. Là, ils signalent en fait les similitudes qu'ils ont rencontrées, qu'ils ont pu mettre en évidence entre les uns et les autres, qu'ils ont pu se sentir alors appartenir à un monde bariolé, métissé, mais ça c'est le monde des élèves dont on parle. Mais j'aurais envie de dire, l'accueil, c'est ce qui leur a permis de sentir qu'ici, ils avaient un voilier en Suisse, dans lequel ils se sentaient appartenir à un monde, c'était les Caspo. Alors après, pour certains d'entre eux, ça n'a pas été du tout facile, mais leurs souvenirs permettaient en fait de se remémorer qu'à un moment donné, leur estime de soi a été nourrie. Et je crois que ça, c'est le principal bénéfice qu'ils ont obtenu pendant cette année-là.
Nicole, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose, Chris Durussel?
Non, je souriais parce que c'est vrai que cette histoire d'estime de soi est aussi quelque chose qui me touche particulièrement, paradoxalement, puisque je suis prof de maths, mais je pense que les mathématiques sont un des vecteurs possibles pour prendre soin de cette estime de soi, mais peut-être qu'on en reparlera.
On en reviendra aux mathématiques, parce que c'est vrai que les maths, on se dit, mais finalement, 2 plus 2, on n'a pas besoin de parler la langue pour comprendre ce que c'est, mais c'est pas aussi simple que cela. On y reviendra tout à l'heure. J'aimerais, Nicole, qu'on fasse un petit parcours historique de cette école.
Alors, parcours historique, mais disons que, voilà, pourquoi on va l'inventer, au fond, en terre vaudoise. La toile de fond, évidemment, c'est les flux migratoires qui vont s'intensifier à partir des années 80, déclenchement des hostilités dans les Balkans. Donc, c'est dans ce contexte-là de migration qu'on va instituer un petit peu dans l'urgence. C'est ce que j'ai cru comprendre en lisant le livre. C'est classe d'accueil pour mieux préparer ces jeunes, soit à rejoindre le système scolaire ou une formation après, ou entreprendre une formation professionnelle. Donc, les appellations ont changé au cours des 20 ans. Ça, c'est pas très très important. Mais disons qu'aujourd'hui, ces classes sont intégrées dans l'organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle. Et puis en 20 ans, ce sont très précisément, à la virgule près, enfin à l'unité près, 1032 élèves venant de 89 pays qui ont rejoint ces classes, donc pour une durée d'un an. Alors ça, c'est la toile de fond de ces trouvailles qui éclaire surtout bien la façon dont tout ça a évolué, la pédagogie de l'accueil, les pratiques et puis les limites aussi du modèle. Alors pour faire court, disons que cette évolution elle s'est traduite aussi par de plus en plus de interdisciplinarité. Pourquoi Chris Durussel et Christian Rehm, puisqu'on vous a pas entendu, Christian Rehm?
Alors je commence.
Oui, non, oui.
L'interdisciplinarité, parce que les enseignants sont des êtres humains qui n'ont pas tous les talents et tous les savoirs, donc il fallait bien recourir à ceux de personnes qui étaient de métiers différents. Et vu la complexité de la problématique, on a eu la chance de pouvoir compter sur une assistante sociale, sur une psychologue intérieure ou extérieure à l'institution. Sur une assistance sociale, ce qui n'était pas le cas au début. Et historiquement, c'est cette façon d'étoffer un peu notre offre de réponse aux problématiques de la migration qui a reconfiguré un petit peu notre école. Puisqu'au début, je pense que l'enseignant des classes CASPO, puisqu'elle s'appelait comme ça, était un peu une personne à tout faire. Mmh. Et qui devait tantôt endosser le vêtement de l'assistante sociale, puis changer pour celui de l'infirmière tout à coup parce qu'il y avait un problème de santé. Ce qui occasionnait des fois des situations un petit peu... Alors la surcharge quantitativement, mais qualitativement, je pense que ça posait aussi des problèmes. Et personnellement, je suis très content qu'on ait pu travailler dans l'interdisciplinarité de plus en plus en bénéficiant des conseils, de l'appui, de la délégation à des personnes qui sont plus qualifiées que nous, puisque nous sommes que des enseignants.
Alors peut-être qu'on peut dire un mot juste sur le choix du modèle, hein, parce qu'on aurait pu effectivement choisir un autre modèle qui aurait consistait à donner des cours de français et puis un peu un petit vernis comme ça culturel autour de la Suisse. Là, c'est pas du tout le choix qui a été fait. On a fait le choix, disons, d'une école normale entre guillemets avec les cours normaux. Pourquoi ce choix là?
Alors, j'en ai pas rediscuté avec Bernard Courvoisier. C'est peut-être à moi que s'adresse la question, puisque je sens un écho à ce que j'avais écrit.
Oui, oui.
Mais pour moi, ça a été un coup de génie, parce qu'en fait instaurer un espace symbolique scolaire, c'est quelque chose qui, en fait, était une bonne idée. Parce que les élèves qui viennent de situations très déstructurées ou qui n'ont jamais vraiment bénéficié d'une structure qui s'appelle l'école, tout à coup, ils se retrouvent dans un espace totalement nouveau et puis totalement référencé sur les représentations que tous les enfants ont, c'est qu'il existe dans le monde entier des écoles.
C'est une
vraie école. Et ça, c'est quelque chose d'universel à quoi on peut se raccrocher, puisqu'il y a, vous avez lu dans le livre, il y a un fil rouge qui court comme ça, qui est une croyance en des valeurs universelles, dégagée de toutes les connotations impérialistes, des droits de l'homme et tout ça, mais il y a quelque chose qui est de cet ordre-là.
Mais comment on vous dirige ces élèves lorsqu'ils débarquent dans le canton de Vaud et je ne sais pas s'ils ont déjà des problèmes scolaires, mais en tout cas, ils n'ont pas encore la langue française.
Oui.
Comment est-ce qu'ils sont dirigés, au fond, sur ces classes d'accueil?
Comment est-ce qu'ils arrivent dans nos
oui,
classes?
Oui, exactement.
Alors bon, d'abord, ce ne sont pas forcément des élèves qui ont des problèmes scolaires. Hein. Ça, c'est important.
C'est pour ça que j'ai ouvert la question.
Donc, on n'est pas une école spécialisée pour élèves en difficulté. Nous avons des élèves en difficulté, mais nous avons des élèves qui ont un parcours scolaire parfaitement soutenu, qui ont l'équivalent parfois d'un bac ou d'un début d'université dans leur pays avant. Donc les parcours scolaires sont très variés. Certains élèves n'ont jamais été à l'école, sont pour certains d'entre eux aussi analphabètes dans leur propre langue. Donc vraiment, on a vraiment une palette aussi variée que possible de publics d'enseignement, si on veut bien. Maintenant, la procédure pour qu'ils arrivent dans notre école. Alors là, au départ, ce qui s'est passé, c'est que quand ces classes ont été créées, Bernard Courvoisier était doyen des classes d'accueil de la scolarité obligatoire à Lausanne. Et quand il y avait des familles qui arrivaient à Lausanne, s'ils avaient des enfants en âge de scolarité obligatoire, il fallait bien que ces enfants aillent en classe. Et comme ils étaient allophones et qu'il y avait ces structures d'accueil qui étaient déjà en place pour la scolarité obligatoire, Bernard Courvoisier recevait les familles. Et puis, il y avait parfois un grand frère ou une grande sœur. Et on avait organisé l'enclassement du petit. Et on demandait, mais et puis pour le grand là? Et puis il n'y avait pas de solution. Et ça devenait intenable avec le temps de ne pas avoir de solution. Et c'est comme ça que ces classes ont été mises sur pied.
Mais ceux qui n'ont pas de petits frères et petites sœurs voilà. qui vont dans...
Alors aujourd'hui, ben, depuis 20 ans, on commence à être connus, c'est-à-dire qu'il y a un réseau, soit de personnes qui, dans les communautés qui sont passées par nos classes, qui font que ben, quand on arrive, on entend parler de l'existence des classes. Il y a aussi tout un travail dans la T1, comment on appelle ça, la structure qui est responsable de toute la transition. En gros, le doyen des classes, Étienne Corba, reçoit chaque élève dans son bureau pour un entretien d'accueil. C'est vraiment une pratique qui est très très importante et centrale à notre fonctionnement. Chaque élève qui est dans nos classes a passé dans le bureau du doyen et a eu un entretien d'accueil où il va raconter ce qu'il a raconté, et surtout on va aussi lui présenter qu'est-ce que c'est qu'une école post-obligatoire. Parce que là, il y a quelque chose qui est différent quand même, c'est qu'on s'engage à quelque chose quand on va dans une école post-obligatoire.
Alors, vous travaillez sur... Il y a trois missions, hein. On va dire maîtrise de la langue, bien sûr. Accompagnement interculturel, on y reviendra, parce que le terme est toujours un peu flou. Et puis, insertion professionnelle. Ça paraît ambitieux pour un an.
C'est très ambitieux et bien sûr, et c'est pour ça qu'on a besoin de cette multiplicité de regards de différents professionnels. Tout à l'heure, Christian Rem parlait d'assistante sociale, d'infirmière. Tu parlais aussi de psychologue scolaire. Nous avons aussi des conseillers en orientation professionnelle qui travaillent avec nos élèves. Et c'est vrai qu'il y a tout un travail de... On a des fois l'impression qu'on est des briseurs de rêves parce que quand les élèves arrivent, ils ont des projets professionnels qui ont peut-être été entamés dans un pays et puis la migration vient tout chambouler. Un papier qui était valable dans un pays est plus valable en Suisse. Une formation qui était possible ne le devient plus pour des questions de langue, pour des questions diverses et variées. Et ça, c'est un gros travail de l'accueil aussi dont vous parliez tout à l'heure. Jean-Claude Métro, c'est-à-dire que voilà, ce boulot-là, il est central aussi. Il n'est pas facile à faire. Et alors oui, c'est ambitieux. On n'est pas dupe hein, du fait que c'est court une année.
Tous ces élèves sont en immersion totale. Ils vivent dans un monde francophone aussi. Le cours continue lorsqu'ils quittent les classes.
Voilà. Alors. Ça dépend, je pense, aussi des situations sociales. Peut-être que certains d'entre eux sont plus ou moins confrontés aux Français. Je pense que vraiment le lieu d'immersion, c'est surtout l'école. Et ça, c'est ton dada, Christian. Hein, le fait qu'en fait, nous sommes tous enseignants de français, puisque ben voilà, les mathématiques se donnent en français, les autres cours, enfin, tu pourras en parler. Mais ouais.
Juste une petite précision, hein, et en 20 ans, ça n'a pas beaucoup changé. Au fond, un élève passe quasi plus de temps, ou en tout cas autant de temps dans des cours dessin, création, travaux manuels, sport, que dans les cours de langue cible du français. C'est une répartition qui est critiquée, remise en cause aujourd'hui, Christian Rem.
Non, pas du tout, non. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu, puisqu'on est dans ces questions lourdement pédagogiques, c'est aussi intéressant, hein, c'est plus micro comme perspective, mais moi, j'ai vu ça à un moment donné, donc j'ai tenu à en parler dans l'article que j'ai fait, parce que il me semblait que c'était une façon de rejoindre les pédagogies les plus novatrices. Sans le vouloir peut-être, j'en sais rien encore une fois, mais en tout cas, ça touche juste, parce que l'enseignement des langues, qui est un autre gros morceau de nos problèmes pédagogiques dans la société helvétique, est marqué par différentes courants, etc. Un des courants, c'est justement l'enseignement bilingue qui valorise l'utilisation et l'apprentissage des langues dans les branches qui ne sont pas strictement celles de la langue. C'est-à-dire les disciplines non linguistiques, la géographie en anglais, la musique en italien, évidemment, l'espagnol pour je sais pas quoi. Donc on a une tendance qui est une des plus efficaces, si on va parler en termes d'efficacité pédagogique, c'est justement ce report de la charge de l'apprentissage dans les matières qui ne sont pas strictement linguistiques. Alors il y a tout un débat et une polémique sur l'échec de l'apprentissage de l'allemand dans les collèges et gymnases helvétiques, puisqu'on sort de l'école, puis on ne sait pas commander une bière à Berlin.
Ça fait longtemps que le constat...
Voilà, c'est un constat, mais ce n'est pas le thème de l'émission. Mais je veux dire exactement. Que les enseignements bilingues viennent au secours de ces carences-là, vraiment.
Je vous propose une musique qui ne sera pas en italien. C'est une Française qui a grandi, qui a vécu en Bulgarie, en Roumanie. Elle s'appelle Lola Lafont. Elle chante, je crois, en roumain, mais je ne suis pas sûre.
Ouais, peut-être c'est identifié.
Oui, voilà, vous allez m'aider.
plouă, 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 plouă și se îmbibă tot pământul. Curg de avalmă casele cum plouă și blocurile se rup în două și se prăbușesc. Plouă, plouă, plouă. Apă, apă, numai apă. Printre rămășițe plutitoare trec din când în când vapoare.
Lola Lafont, le titre c'est Ploie. Alors l'avis du spécialiste Christian Ram.
Moyennement spécialiste. Moyennement spécialiste.
C'était du romain.
Oui, je pense. À confirmer.
À confirmer. Donc au tableau noir de Babylone, page d'accueil, un ouvrage collectif paru chez Antipode et qui est consacré aux 20 ans d'existence des classes d'accueil dans la scolarité post-obligatoire dans le canton de Vaud. Sur les bancs de la classe, nous avons Chris Durussel qui a coordonné l'ouvrage, Christian Rem, enseignant, et Jean-Claude Métraud, pédopsychiatre. On a parlé de l'immersion dans cette langue française, on n'a pas encore parlé du rôle des parents. Qui aimerait s'exprimer là-dessus? Oula.
Du rôle des parents, alors la question surprend.
Normalement, les parents accompagnent la scolarité de leur enfant, et là, de rentrer chez soi avec des devoirs et n'avoir personne à qui s'adresser parce que c'est rédigé dans une langue qu'on ne connaît pas, c'est pas facile, j'imagine.
Non, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile, mais c'est pas impossible. C'est-à-dire qu'on peut très bien être parent ne parlant pas deux modes français et quand même pouvoir aider l'élève, son enfant. Et là, je pense, j'ai pas les détails, mais je pense que ça, c'est aussi un mérite des classes d'accueil du post-obligatoire du canton de Vaud. C'est le type de relation établie avec le reste de la famille et les parents. C'est-à-dire aussi quelque chose de l'ordre du respect mutuel. Parce que bien souvent, le problème du gamin, c'est que quand il rentre à la maison, en fait, il arrive plus à voir ses parents comme des parents qui ont quelque chose à lui donner. Parce qu'il les voit comme des gens entre guillemets, incompétents, parce qu'on leur donne, on donne une image à l'enfant comme quoi la langue maternelle n'a pas sa valeur, etc., etc. Et ça, c'est un véritable drame pour les enfants. Donc, j'aurais envie de dire, les parents, c'est pas un problème. Le problème, c'est le type d'attitude qu'on a comme professionnel vis-à-vis des parents, et y compris à l'adolescence.
Peut-être que c'est intéressant de revenir sur un point. On a dit c'est un an effectivement de formation. On a parlé de l'objectif ambitieux par rapport à la langue. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup. Vous le disiez pendant qu'on discutait là un petit peu pendant la chanson, et vous le disiez Jean-Claude Métro, il y a beaucoup quand même d'échecs des jeunes migrants par rapport à l'apprentissage du français. Donc l'objectif réel de ces classes d'accueil, c'est pas forcément le français.
Non, c'est pas forcément le français. Et je me permets de reprendre un autre témoignage d'Ergin Ziayo, parce que c'est une phrase absolument signifiante. Il dit, dans un contexte si mosaïque, je me suis lié d'amitié avec les assistantes sociales, les professeurs, les élèves et les autres réfugiés. La sympathie et la compréhension des professeurs en ont marqué plus d'un. Ils nous ont témoigné, enseigné le respect, la compassion, la patience. Ils nous ont donné l'impression et le sentiment d'être quelqu'un, de valoir à leurs yeux et aux yeux des autres. Ils nous protégeaient. Ils étaient plus que nos professeurs et ont joué par moments le rôle de nos parents. Ensemble, nous avons rigolé pour oublier. Je trouve que c'est extrêmement signifiant pour montrer que, effectivement, c'était pas le français qui a probablement été central. C'est bien parce qu'il y a eu autre chose que le français, l'apprentissage de français et tout le reste a été rendu possible. Mmh. Et là, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que j'avais pas eu l'occasion de lire tout le livre parce que j'étais averti un peu au dernier moment pour venir ici. Et puis, j'ai lu juste avant de venir le témoignage de Chris Durussel, enfin son article, en tant que prof de maths. Alors, on pourra revenir là-dessus parce que je trouve que c'est central aussi ce qu'il dit. Voilà.
Je vous propose d'autres témoignages également extraits de cet ouvrage. Là, c'est la dame qui travaille au secrétariat et un élève.
8 heures. Un père d'élève est au téléphone. Il m'annonce que sa fille est malade et qu'elle ne viendra pas en classe aujourd'hui. La conversation a été un peu longue. Deux élèves sont là qui patientent depuis quelques minutes. Un maître attend également après moi et déjà un autre appel téléphonique résonne dans mon dos.
8h25. Il ne faut pas que j'oublie de téléphoner au secrétariat de l'école pour annoncer mon retard. Ce matin, si je suis en retard, c'est que ma mère a oublié de me réveiller. Est-ce que le numéro est noté dans mon agenda? Pas sûr que j'arrive à m'exprimer pour que la secrétaire me comprenne.
8h45. L'imprimante crache des lettres que je viens d'écrire. L'ordinateur, mon allié, n'a pas branché ce matin quand je lui ai donné l'ordre d'aligner tous ces mots de mécontentement. Attitude inacceptable, manque de respect, etc. Et quand je lui ai balancé tous ces noms d'élèves avec adresse et numéro de téléphone, responsables légaux. Je tourne et retourne les mots pour qu'ils aient un sens, une intonation ferme mais bienveillante, le but n'étant pas de dévaloriser, de punir, mais bien d'avertir d'un manquement. Tourner les mots pour qu'ils n'agissent pas comme un couperet.
8h50. Le prof m'a demandé d'aller chercher des craies au secrétariat. Je lui demande si ma voisine peut m'accompagner. À deux, on saura mieux se débrouiller. Mais comment on prononce craie déjà? Craie, craie, craie. Je répète la phrase 3 fois de suite pour m'en souvenir. J'aimerais des craies, s'il vous plaît. J'aimerais des craies, s'il vous plaît. J'aimerais des craies, s'il vous plaît.
9h05, le concierge de l'école m'avertit que des élèves ont cassé une vitre dans les toilettes des filles du premier étage et qu'il a fallu les fermer à cause du verre éparpillé sur le sol. J'enregistre l'information pendant que je donne un antalgique à une élève qui se plaint de maux de tête.
9h12. Je demande à la secrétaire ma carte d'étudiant, mais elle me dit que sans photo, elle ne peut pas faire la carte. Justement, j'en ai une dans mon porte-monnaie, une photo qui remonte à environ 6 mois, quand j'habitais encore chez ma grand-mère, avant que je ne parte pour la Suisse. La secrétaire me dit de la poser sur la banque, qu'elle s'en occupera dès qu'elle aura le temps. Le mot « banque » m'interpelle, je ne le connaissais pas dans ce contexte. La banque, ce n'est pas l'établissement qui gère l'argent. 9h40. Je peux téléphoner? Je demande à la secrétaire d'une voix douce, de crainte de la déranger plus qu'il n'en faut, mais aussi avec la peur de mal faire, de mal prononcer les mots, peur qu'on me dise non, ou ce n'est pas l'heure, ou il faut payer, etc.
Une enseignante arrive et me dit qu'une de ses élèves ne se sent pas très bien. Nous l'installons sur le canapé de la bibliothèque. L'élève, allongée, toute palote, respire bruyamment. Elle n'a mal nulle part, juste la tête qui tourne. « Avez-vous mangé ce matin ?» Cela ne semble pas être le cas. Alors je lui propose un thé sucré, qu'elle accepte.
10h. Hier, en cours, nous avons parlé des différents pays d'origine des élèves de notre classe et notre enseignante nous a proposé d'apporter chacun, pour le lendemain, une spécialité culinaire de notre pays. À 3, nous mettons des morceaux de gâteau sur une assiette en carton et, ravis de pouvoir enfin apporter à la secrétaire quelque chose qui vient de nous, nous descendons les marches avec précaution.
Petit extrait de ces pages d'accueil. Alors, on va y venir. Il faut qu'on parle de ces mathématiques depuis le temps qu'on les évoque, Chris Durussel. Les mathématiques, ça a l'air d'être simple comme ça. On se dit, c'est finalement, s'il y a une langue internationale, c'est celle-là.
Oui, et c'est vrai. En fait, c'est un langage universel. Et c'est peut-être aussi pour ça que c'est un outil fantastique pour l'accueil des élèves, parce que ben voilà, on parle tous mathématiques, qu'on vienne de Chine, d'Érythrée, d'Amérique du Sud ou de n'importe quel endroit, on a tous en tout cas cette langue en nous. Et bon, on a un parcours qui fait qu'on l'a plus ou moins abordé, qu'on la maîtrise plus ou moins bien, mais il y a quelque chose effectivement d'universel. Et pour moi, c'est les mathématiques, c'est vraiment un moyen de se connecter à quelque chose qu'on est capable de faire. Mmh.
Mais vous parlez également dans votre article des mathématiques inutiles pour le quotidien, mais utiles pour la tête.
Voilà. Oui, parce que, évidemment, comme prof, quand on enseigne certaines, je sais pas, si vous enseignez l'addition des fractions à des élèves, il y a toujours un moment donné où on vient vous demander, mais monsieur, mais franchement, ça sert à quoi cette histoire-là? Et puis, j'ai cessé de leur mentir en leur disant bah, « t'en auras besoin plus tard, tu verras » et tout. Parce que c'est vrai que personnellement, j'ai jamais utilisé le théorème de Pythagore de ma vie. Si ce n'est pour l'enseigner à d'autres élèves dans mon métier. Mais sinon, ça m'a pas été très utile au quotidien, disons. Bon, peut-être que si j'avais été maçon, ça se discute. Mais je suis pas certain qu'il utilise tous
les
jours.
Mais il y a un mais.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, les mathématiques, c'est pas... C'est cette vision des maths qui servirait plus tard à quelque chose d'utilitaire, pour moi, c'est un mauvais utilitarisme, parce que c'est réduire ce langage à quelque chose de trop plat, de trop petit, parce que finalement, c'est comme un fitness mental, si on veut bien. Mais pas seulement les maths. Pour moi, c'est tout enseignement, quel qu'il soit. Bien sûr, on s'inscrit dans une culture. Bien sûr, quand on fait de la géographie ou de l'histoire, on comprend un petit peu mieux ce qui se passe dans un pays, dans le monde, etc. Mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de « je découvre que je suis capable de penser ». Et ça, c'est fondamental pour l'estime de soi.
Bien sûr. Oui, Christian Rehm.
Moi, je pense qu'il y a aussi un autre intérêt, c'est que les maths sont profondément interculturelles, c'est-à-dire qu'elles sont, arabes, indiennes, vallées de l'Indus, toscanes, tout ça. Et si les élèves rigolent quand on dit des chiffres arabes ou je sais pas quoi, c'est une bonne accroche, quoi, aussi. Donc, on peut défendre cette espèce de double face des choses qui sont à la fois dans la variation culturelle et à la fois avec quelque chose qui traverse et qui fait que d'Érythrée au Portugal, il y a 1, 2, 3.
Alors, il y a 1, 2, 3, mais... Voilà. Et puis après 1, 2, 3, il y a tout cet accompagnement interculturel qu'il faudrait peut-être un peu mieux définir, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de critiques, hein, on le sait, autour de l'interculturel... Pardon ? Tarte à la crème, vous dites, oui. Enfin, ça, c'est votre propos. C'est multiculturalisme aussi. Alors, ça peut signifier un peu tout et son contraire. Quel contenu y mettez-vous, Christian Rehm, dans cette tarte à la crème ?
Pour polémiquer tout de suite, parce que non, parce qu'aujourd'hui, ces mots comme altérité, interculturel, qui sont utilisés à tort et à travers, sans que plus personne sache très bien ce qu'on veut dire. Et puis c'est un cache-misère pour certaines expériences qui sont calamiteuses. Parce que l'interculturel, c'est à la fois magnifique, mais c'est difficile. Et puis nous, on se sent dans l'interculture. Vraiment, on se sent là, et c'est même le plaisir de notre job, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être dans un lieu d'interculturel où il n'y a pas de stigmatisation, parce qu'on a un petit peu réfléchi à ça, où il y a une ouverture d'esprit que les élèves nous ont apporté, parce qu'on a eu beaucoup de surprises, et puis tout ça
exemple,
fait que...
Exemple, ben, donnez-nous un exemple.
Les exemples, ils sont nombreux. Les exemples, c'est que quand on propose des journaux aux élèves, et puis qu'on se dit, oulala, ça va être un objet que tous ne connaissent pas, eh ben oui, il y a des journaux partout, il y a des journaux tamouls, et puis on en apporte en classe, et puis on a des préjugés. Et alors avec le temps, les préjugés disparaissent vite, ou bien on change de job. C'est clair qu'on pourrait aussi changer de métier en se disant non, ça. Mais en l'occurrence, les élèves, et c'est ce qu'il faut qu'on dise ici, on le répète, et ça paraît aussi un peu creux comme formule, mais ils nous apportent beaucoup. Parce que c'est constamment qui remettent en cause certains de nos petits préjugés, c'est constamment qui déplacent un petit peu notre position, qui nous décentrent par rapport à nous-mêmes, même des élèves européens, portugais, où on a, ils ne savent pas utiliser une calculette, mais il y a d'autres choses qui viennent, il y a d'autres choses qu'on apprend, et pas toujours celles qu'on veut apprendre, mais il y a cet aspect de réciprocité qui est la base du métier.
Mais est-ce qu'il y a également un apprentissage de la Suisse? Est-ce que vous devez passer par là aussi? Comment on négocie avec les structures de ce pays? Comment on s'intègre?
Il y a plusieurs aspects. Bon, formellement, nos élèves ont un cours qui s'appelle Connaissance de la Suisse.
Voilà.
Donc, qui est un cours d'histoire, géographie, comment on appelle ça, ces cours de civil.
Civique.
Civique, voilà. Voilà.
Ah, je crois que tu voulais dire civilisation.
Non, je n'avais pas dit ce que.
J'avais un cours de civilisation.
On va les civiliser, ces élèves. Ouais, quelle horreur. Non. Et dans ces cours-là,
c'est un petit peu désuet, hein, Connaissance de la Suisse.
Oui, hein,
c'est un peu 19e.
C'est vrai. Ouais. Eh bien, en fait, je pense que c'est voulu. Parce qu'il y a un côté comme ça, en fait, sous une étiquette assez formelle, on y fait beaucoup de choses. C'est vraiment d'abord un lieu d'échange, de partage, c'est connaissance de la Suisse, en fait, c'est oui, la Suisse et votre culture là-dedans, qu'est-ce qu'il y a comme similitude, quelle différence? Enfin, je crois que les professeurs...
Oui, mais vous vous sentez responsable de transmettre justement des contenus culturels, des enjeux liés à cette culture-là, ou pas?
Oui et non.
Fait, il y a des choses quotidiennes. Par exemple, c'est vrai que une chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'en fait, tous les professeurs n'ont pas le même rôle dans l'école. Les professeurs de français sont aussi des professeurs de classe. Ce qui veut dire, en fait, qu'ils sont beaucoup plus en charge des élèves que les autres professeurs. Ils les voient beaucoup, plus que les autres, mais surtout, ils ont aussi à gérer tout l'aspect extrascolaire. Alors, Christian Rey me disait au début que c'était eux les seuls à faire ça quand les classes ont commencé. Maintenant, bien sûr, ils sont aidés par l'assistante sociale, par l'orientation professionnelle, etc. Mais ça reste quand même un regard particulier. Ils connaissent vraiment les élèves beaucoup mieux que les autres profs. Et forcément, là, ils sont...
Comme des parrains.
Oui, si on veut, même si, voilà.
D'intégration.
Je sais pas si ce terme te va, toi.
On avait dit référent, voilà. Une fois, mais c'est pas beau, référent. Donc,
parrain, c'est plus joli. Ouais.
C'est joli, il y a une petite ambiguïté, parce que...
Il y a une petite ambiguïté,
oui. Oui, judéo-chrétienne. Mais bon. De toute façon, quoi qu'il en soit, les profs de classe ont forcément des contacts avec les élèves dans leur quotidien extrascolaire, des problèmes administratifs, j'ai reçu cette lettre, je la comprends pas, qu'est-ce que je dois aller faire, je dois aller au contrôle des habitants, enfin tu pourras en parler en détail, mais là il y a des choses où forcément dans le quotidien on explique la Suisse.
Ouais. Moi j'aimerais revenir sur ces approches didactiques peut-être plus précises, hein, puisqu'on a ces 20 ans de recul aujourd'hui. Alors on voit dans le système scolaire normal est de plus en plus interculturel justement, avec des classes de plus en plus mélangées. Donc, est-ce que vraiment, par rapport à cette pédagogie que petit à petit vous avez mis en place, est-ce qu'on peut dire que, au fond, c'est une espèce d'école laboratoire, Christian Rehm?
Oui, mais on n'est pas un laboratoire isolé. Hein. Je veux dire, il y a toutes sortes de démarches. Là, on entend des débats qui sont peut-être un peu techniques pour votre émission, mais il y a toutes sortes de démarches scolaires qui ont voulu et qui, je pense, ils parviennent. En tous les cas, les bases sont très, très solides pour essayer d'introduire dans les programmes scolaires de base une ouverture sur... Alors, ça s'appelle éveil aux langues, par exemple. Hein, c'est quelque chose qui a été fait depuis les années 70, qui consiste, et la langue étant, pour reprendre ce que disait Jean-Claude Métraux, un point d'accrochage. Hein. C'est vrai qu'il faut jamais prendre la langue comme une fin en soi, mais c'est une accroche culturelle où on peut... C'est un porte-manteau, on peut mettre beaucoup de choses.
Quels sont les auteurs au programme?
Les auteurs au programme...
Français, francophones, suisses. Quels sont les auteurs que vous proposez dans ces classes?
Ou alors Eugène, Friot, Maupassant, Nancy Houston, je sais pas.
Oui,
non,
oui.
Nous on balaye assez large, hein, oui. Et on a une grande, on l'a pas dit ici, mais on a une chose qui est précieuse, qui s'appelle la liberté. Et on a construit nos programmes comme on le souhaitait. On est même, disons, dans une certaine mesure, enclin à dire, ben voilà, c'est ce qui fait un peu référence, c'est la façon dont on fait nous. Même s'il y a d'autres références, on n'est pas les seuls à travailler. Il y avait le Sky de Genève, il y a les Caspo en France, les Casnav en France, qui ont fait un travail beaucoup plus, à la mesure de la France, quoi, beaucoup plus important que nous. Donc il y a beaucoup de gens qui œuvrent dans cette zone qui est à la fois une petite zone de l'école et de la société, qui est le contact entre les migrants jeunes, les enfants migrants et la société. Mais une zone de contact qui n'est pas celle du conflit, qui n'est pas celle des problèmes administratifs, mais qui est d'une vraie empathie, d'une vraie rencontre. Moi, je suis pour la rencontre.
Alors, c'est vrai, on parle rencontre, on parle beaucoup rencontre. Ce qu'on a entendu quand même dans les textes aussi, c'est aussi une certaine violence parfois. Et c'est, voilà, avec des jeunes qui viennent de situations parfois extrêmement traumatiques pour eux. Donc, comment ça se passe avec ça aussi? Parce que là, peut-être qu'on dépeint quelque chose qui est un petit peu trop idyllique, un peu une image d'Épinal, peut-être. Alors, Jean-Claude Métraux.
C'est-à-dire que, évidemment, beaucoup de ces jeunes ont vécu des situations de précarité extrêmes, avec des traumatismes, avec des pertes, des deuils. À l'époque, tout au début, c'était la Bosnie-Herzégovine, c'était le Rwanda, c'était des choses terribles. Mais cette précarité, c'est aussi la précarité des Latino-Américains qui arrivent en Suisse en ayant passé par l'Espagne, ou des Portugais, etc., qui ont vécu des fois des situations de précarité très difficiles. Ils les ont vécues souvent avant d'arriver en Suisse. Ils les vivent aussi en Suisse avec des permis précaires, sans papier, difficultés du regroupement familial, toute une série de choses terribles. Et puis ils les vivent après, parce que pour beaucoup d'entre eux, quand on lit les témoignages, on voit que c'est pas non plus facile après au niveau de l'insertion professionnelle et autres. Mais bon, moi j'ai envie de dire, il faut toujours faire quelque chose dans la mesure de nos moyens où on est. Il y a des choses qu'on peut pas changer. On peut intervenir sur le champ politique, je pense que c'est important d'intervenir dans le champ politique, mais moi, comme pédopsychiatre, mes collègues comme enseignants, etc., on va pas pouvoir changer à ce niveau-là. Alors la question, qu'est-ce qu'on peut faire là où on est? Et je reviens là sur le mot que vous avez utilisé tout à l'heure, c'est-à-dire de revenir. Alors moi j'ai aussi une critique terrible de l'interculturalité, l'interculturel comme tarte à la crème, c'est encore bien gentil comme mot, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que dans les pionniers de la réflexion sur l'interculturalité, puis on parlait du canton de Vaud pionnant pour dire en Suisse romande, il y a eu, on parlait d'éveil aux langues, Christiane Pergaud par exemple, qui a joué un rôle extrêmement important par rapport à ça. Et c'était en fait ce que j'aurais envie de dire, des initiatives d'une interculturalité véritable. Parce que l'interculturalité, c'est pas travailler avec un Érythréen, c'est pas apprendre le français à un Érythréen, c'est pas avoir dans sa classe des enfants de n'importe où, y compris du Valais. L'interculturalité, la vraie interculturalité ou attitude interculturelle, c'est un engagement. C'est un engagement qui implique, comme l'a dit Christian Rehm, une décentration, c'est-à-dire un effort sur soi pour le professionnel qui travaille. C'est cet effort sur soi de faire, au langage psy, un peu le deuil de ce qu'il imaginait auparavant, de sa vision du monde. Il n'existe pas de journaux tamouls, pour prendre un exemple. Et quand je dis un engagement, c'est-à-dire ça, c'est pas un effort sur soi qui va de soi. Et alors c'est pour ça, moi je préfère ou de plus utiliser le mot interculturalité parce que c'est trop galvaudé, mais qu'on peut réfléchir comment penser en termes de réciprocité. Je m'excuse si je m'étais au pis, si je cite mon voisin de table, Chris Durussel, parce que je pense
pas
que
trop
là...
longuement, puisqu'il est là.
Ok, très rapidement, mais moi, ce matin, j'étais vraiment complètement ému par ces mots. Pour le dire autrement, c'est la confiance dans le fait que l'autre en face de soi est un être de sens lui aussi, qu'il est un effort de sens tout comme nous-mêmes, la personne en difficulté scolaire tout comme une autre. C'est dans une quête de sens que la relation d'aide prend place. Une quête de sens qui est, dit-il après, menée conjointement par l'élève et le prof. Une quête de sens, pas une transmission du sens, ce qu'est la Suisse, ce qu'est je sais pas quoi, mais une quête de sens partagée.
Dernière question, hein, peut-être aujourd'hui, contexte de repli, durcissement envers la migration, les classes d'accueil n'ont plus bonne presse ou sont menacées En tout cas, quels sont pour vous les défis tout simplement à relever dans ce contexte-là aussi de crise économique, crise de Russell?
On est dans une situation de grand changement puisque nos classes ont augmenté, presque doublé d'effectifs entre l'année passée et cette année.
En une année.
Voilà.
Les profs.
Alors bien sûr, si, parce que il faut quand même que ces élèves soient pas tout seuls en classe avec un iPad. Donc non, il y a des profs qui vont avec. Mais ça pose des problèmes de locaux, ça pose des problèmes d'échelle, ça pose des problèmes de fonctionnement. Vous parliez du voilier, enfin tu parlais du voilier tout à l'heure.
Sur une mer agitée.
Une mer agitée. Là, le voilier, on y rajoute un mât, puis un deuxième, puis on se demande s'il faut lui mettre un moteur. Enfin voilà, il y a une évolution. On est en plein dedans. Mais c'était aussi pour ça qu'on avait envie de faire ce livre. Parce qu'on n'avait pas envie de se tourner vers le passé et de faire une commémoration de ces 20 ans. Je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais on avait envie de poser un jalon et puis que ce soit un point de départ de quelque chose, vers de nouvelles réflexions. Prendre du recul, c'était important aussi. Que ce livre soit aussi le reflet de quelque chose. S'il y a une quarantaine d'auteurs dans le livre, ça reflète aussi le fait que nos élèves ont des multiplicités de regards dans notre école. J'ai beaucoup aimé entendre le texte de la secrétaire. En plus de l'entendre, c'est ça la magie de la radio, ça le fait vraiment comprendre d'une autre façon. Mais ce qu'elle raconte là, on voit bien cette multiplicité de regards, et c'est ça qu'on voulait refléter pour se tourner vers l'avenir et pour se dire, on a des défis, des changements qui nous attendent. Voilà ce qu'on a pu mettre en place ces dernières années, et puis que ce soit un tremplin pour des nouvelles choses. Mais les défis sont là, c'est sûr.
En 20 ans, certains de ces élèves ont l'âge d'être enseignants. Est-ce que vous avez des enseignants qui ont été dans vos classes d'accueil, vous savez?
Alors, il y en a un cette année, qui est un ancien élève qui était dans nos classes il y a 15 ans. Et bien justement, vous parliez du fait que les professeurs devaient augmenter avec le nombre de classes. Eh bien, il a la chance de pouvoir, ou la malchance, je ne sais pas, j'espère qu'il est content, de pouvoir intégrer nos classes en tant qu'enseignant de mathématiques dans ce qui est un collègue qui était chez nous il y a 15 ans. Oui.
Merci. Je rappelle le titre de l'ouvrage, Page d'accueil, et c'est paru aux éditions Antipode, et c'est un ouvrage collectif sous votre direction, Chris Durussel, sous celle d'Étienne Corba, Émilie Raymondi et Marissa Chaler. Chris Durussel, Christian Rehm, Jean-Claude Métraux, merci d'être venu aujourd'hui dans Babylone. Émission réalisée par Mathieu Ramsauer, Nicole Duparc, Nancy Psilantis. C'est Nicole Corpato, notre assistante de production. Nos lecteurs, lectrices, merci à Francesco Biamonte, Annick Chouin et Marlène Métraillé. Lundi, on se retrouve avec vous, Nicole Duparc, sommaire.
Au sommaire, une question: est-ce que le deuil est une nouvelle maladie?
Babylone avec le temps.
Vous écoutez Espace 2, merci. Il est 10h.